Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Radio Foot International sur RFI, cette fin d'après-midi avec une anticipation de ce que sera la soirée football aujourd'hui sur l'antenne de RFI et évidemment sur des terrains de football 2. Avec des Parisiens chez les ogres bavarois, ce soir, le PSG retrouve son adversaire de la finale. 7 mois plus tard, Neymar, Mbappé et leurs camarades ont-ils retenu la leçon? Mauricio Pochettino fera-t-il mieux que Thomas Tuchel? Les champions d'Europe en titre sont-ils plus forts ou moins sans leur buteur Robert Lewandowski? Les clés d'un match déjà décisif pour le PSG. Chelsea face au petit poussé Porto. Mais cette équipe portugaise qui a écarté la Juventus de CR7 n'est-elle pas plus dangereuse qu'on ne l'imagine alors que les Blues ne sont pas au mieux? Le Real Madrid, plus fort que Liverpool hier soir grâce à l'efficacité d'un joueur, le jeune Brésilien Vinicius, dont on a hier soir mesuré les progrès. Zidane a lui remporté son match face à Klopp. Zizou est-il un entraîneur à part? Enfin, la mince avance des Citizens sur Dortmund, vainqueur tardif d'un coriace adversaire. Un excellent Kevin De Bruyne a guidé Manchester City, mais la qualification dans la roue promet d'être difficile. Et nous en parlerons avec nos invités. Bonjour Eric Rabessandratana, le Parisien. Je suis obligé.
Oui, entre autres.
Je suis obligé de le dire parce que
Annie.
Si je vous décris à nos auditeurs, on a un homme en maillot du Paris Saint-Germain qui avait le survêtement du Paris Saint-Germain, donc finalement.
J'ai pas fait exprès. Hein.
Mais c'est un peu loin pour rentrer sur le terrain.
J'ai pas fait exprès. Non, mais on a communiqué avec Eric avant le match.
Vous aimez souffrir en portugais, on dit sofredor. Ouais. Quand on est un supporter qui.
Moi, je suis un vrai. Je souffre beaucoup d'ailleurs.
À cette heure, est-ce que vous souffrez?
Non, ça va encore. J'ai été pire, mais je suis pas quand même serein.
Mais parfois, quand vous êtes comme ça, il se passe quand même des choses terribles.
C'est vrai. Hein, donc c'est pour ça que ça ne veut rien dire.
Est-ce que vous êtes un sofredor pour les Bareas aussi?
Ah bah oui, forcément.
Vos chers Bareas de Madagascar.
L'élimination a été terrible.
Ouais. Triste. Triste épisode parce que la qualification était à portée de main.
Elle était à portée de main à partir du moment
face au Niger.
Exactement, à partir du moment où l'Éthiopie ne gagnait pas, il fallait battre le Niger et c'était quand même à la portée de ces barrières et malheureusement ça n'a pas été le cas. Alors grosse déception parce que quand on a vécu toutes les émotions pour cette équipe à la CAN, on avait envie de la revoir à la CAN.
Mais ils ont besoin d'être un peu secoués, ces barrières-là.
Ouais, ça serait bien. Hein,
ça serait pas mal. Bon, il faut que vous les encouragiez autant
que
les Parisiens. Alors.
Écoutez,
n'est-ce pas ?
Je suis disponible avec plaisir.
Avec plaisir. Bon, nous aussi avec plaisir. Alors on viendra vous voir si vous êtes là-bas, sur la grande île. Et on y salue tous nos auditeurs parce qu'on sait qu'on en a beaucoup là-bas du côté de Madagascar, des Comores qui eux se sont qualifiés, n'est-ce pas ?
Félicitations aux Comores, bien sûr, évidemment.
Bien sûr. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour à tous nos auditeurs, n'est-ce pas, proches et lointains, vous, de Foot Africa 365, et qu'on vous lit avec plaisir. David Lortolari, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
On pouvait vous lire aujourd'hui, c'est sur le site Eurosport.
Exact.
Un très long article, mais passionnant, sur le Bayern Munich et sa mentalité, et on en parlera justement dans cette émission. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est aux commandes. Radio Foot, c'est parti. Sieg für die Geschichte. Wir sagen wir. Stern des Südens in hellem Lichte. Wir sagen wir. FC Bayern, unsere Liebe. Wir sagen wir. Wir sind deutsche Meister. Wir sagen wir. Sur championnat, gagne le match, dunk, y'a ça ira. Si c'est comme ça, viens dans ma Corée. Allez, 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 l'FCB, FCB, KUC. This is more than a dynasty. This is the greatest club on earth. Not only in Germany. Laurent Salerno est imbattable. Pour
incroyable.
Vous dénicher la perle, il la trouve toujours. Alors, il a adoré David Lortolari, Laurent Salerno. Hein.
Vous savez pourquoi, Annie? Parce que le Bayern s'entiche toujours de sa tradition. On est toujours en train de parler de tradition, de mode. Et il y a aussi une petite pointe de modernité. Alors,
n'est-ce
c'est pas toujours réussi. Mais...
Oui, bon, on n'est quand même pas avec le chapeau à plumes hein, et les flonflons bavarois. Mais nous sommes toujours en Bavière avec la belle Arena de Munich qui affichera évidemment ce soir sa couleur rouge. Comme d'habitude, mais aussi, sans doute, peut-être pour impressionner les adversaires du Bayern, les mêmes finalistes face à face que le 28 août dernier en Ligue des Champions, vous le savez. Cette fois, nous sommes en quart de finale aller et le choc promet tout autant. Sur fond rouge, eh bien une neige blanche. Alors, ça vous dérange pas la neige, Eric ?
Alors moi, ça me dérange
c'est
pas.
Un facteur
maintenant,
X,
c'est vrai
y,
que j'avoue que
Z.
Ça risque d'être un peu embêtant s'il y a un peu de neige sur le terrain.
Bon, mais notre ami David Ortolari nous a certifié que la pelouse serait impeccable.
Certifié, non, mais elle est chauffée, donc elle sera bien traitée.
Déjà, ça veut dire beaucoup.
Bon, en tout cas, la pelouse de Bavière sera là, nette et verte pour corser l'ambiance. Les Parisiens pourraient alors se souvenir d'un but devenu légendaire.
Colter, George, on a écarté avec Nouma, George encore,
oh,
il est passé.
Il est passé.
Il est passé.
Oh, quel but.
Il est passé. Oh, quel but. Quel but.
George,
oh,
on sentait qu'il était
ça
capable.
Ça pourrait être passé, il est passé.
Oh, il est passé. Quel
oh,
but.
Oui.
Quel festival, George Weah.
Ah, ça c'est un festival.
Les amis, je vous vois là déjà avec les yeux qui brillent en se souvenant bah oui. de ce but. 23 novembre 1994, le Libérien George Weah inscrivait à la 80e minute le seul but de la partie à Munich. Un but devenu mythique parce que c'est de là que va venir la légende avec quand même le Libérien était face à Lothar Matthäus, alors c'est pas n'importe qui,
oui.
et à Oliver Kahn
Oliver
dans les
Kahn
buts.
Aussi, ouais.
Hein, vous vous en souvenez de ce moment?
Ouais, ouais, je m'en souviens. Moi, j'avais regardé le match en direct et c'était incroyable. Et puis, en fait, c'est du George Weah, quoi. C'est-à-dire que c'était déjà un phénomène. Et de mettre un but comme ça, ça a marqué d'ailleurs tous les esprits de tout le monde, ce qui lui a permis après de partir.
Et de faire
sa
très belle carrière. David, on s'en souvient aussi, vous pensez, là-bas en Bavière?
Oui, c'est un épisode qu'on rappelle d'autant plus, Annie, que Oliver Kahn, puisque c'est lui qui est l'un des principaux acteurs à ce moment-là, Oliver Kahn a quand même rendu énormément de services au Bayern. Sur plan national, sur plan international, il a fait rayonner ce club aussi à sa façon, avec sa mentalité justement. Et ce jour-là, il était loin de la balle, quoi, vraiment. Et je m'en souviens l'avoir vu aussi en direct. Et là, c'était vraiment... Il y a guère que JJ Okocha, moi, qui m'a plus marqué comme buteur avec Paris.
Mais justement, David parle de JJ Okocha, mais Oliver Kahn, il a encaissé peut-être le but le plus célèbre de JJ Okocha, cette fameuse action à l'époque où il était à l'Eintracht Francfort, JJ, où il touche le ballon 12 fois dans la surface avant de tirer au but et de marquer. J'ai jamais vu ça sur un terrain de foot, un joueur qui touche le ballon 12 fois dans la surface et qui ensuite bat un gardien comme Oliver Kahn. Et il se prend ensuite ce but exceptionnel dont on se rappelle tous. Il suffit d'entendre le début de l'action pour que les images reviennent. Parce que c'est le but de George Weah en Ligue des Champions. Si on doit s'en rappeler que d'un, c'est de celui-là. C'était en plus sur le stade où Marseille avait gagné
le stade olympique de Munich,
sa Ligue des Champions. Donc pour les Français, c'est un stade qui est, même si Marseille et le PSG, bon,
c'est symbolique.
C'est pas des grands amis, hein, évidemment, mais disons que pour un supporter, un spectateur français, c'est symbolique et donc ça charrie énormément de souvenirs. Donc vous avez bien fait de nous le remettre parce que ça nous met tout de suite dans une ambiance
dans une
joyeuse et dans des bonnes dispositions pour le match.
Même si moi, Oliver Kahn, je me souviens du doublé de Ronaldo quand même, hein, en finale de Coupe du Monde 2002.
Par exemple.
Hein, y a
c'est vrai qu'on a revu ce match cette semaine.
Exactement.
Vous l'avez sans doute regardé,
Annick.
C'est vrai que c'était Ronaldo, quel joueur phénoménal.
Extraordinaire.
Quoi.
Extraordinaire. C'est vraiment, ça valait la peine de se repencher sur ce match. Bon, en tout cas, le facteur X dans le contexte que nous vivons, eh bien, ce n'est ni la neige, ni des buteurs chanceux. C'est évidemment, en plus des blessures, le coronavirus qui tient à l'écart de la rencontre deux Parisiens et un Allemand. Alors, Verratti et Florenzi, et puis Gnabry. En plus de la blessure de Robert Lewandowski, ça fait pas mal. Tout cela, eh bien, pèse évidemment, c'était le fruit des regroupements internationaux hein, avec la FIFA, ça pèse sur les clubs. Mais les Bavarois veulent se montrer stoïques comme Benjamin Pavard.
Pour moi, c'est le meilleur numéro 9 du monde. C'est sûr qu'il nous manque, mais on a aussi un gros réservoir, on a un gros effectif avec Choupeau ou avec d'autres joueurs aussi qui peuvent jouer à ce poste-là. D'ailleurs, Choupeau a fait un très bon match contre Leipzig. Voilà, on s'adapte et on reste sur la même façon de jouer. On se pose pas de questions.
Alors, gros effectif, il n'y a plus Gnabry, donc on le sait depuis hier. Choupeau-Moting, gros effectif.
C'est pas le joueur rapide.
Hein.
Non, mais c'est pas la comparaison qu'on fait tout de suite. En fait.
C'est on le réduit souvent à un bon ambianceur, à un joueur sympathique qui rend quelques services. Il a montré, ne serait-ce que sur le dernier match à Nice le week-end passé contre le deuxième du championnat, qu'il pouvait rendre plus que de simples services.
Bah d'ailleurs,
c'est un vrai attaquant.
Franchement, je suis d'accord.
Andy Flick compte bien sur lui ce soir.
Ouais, et puis il a été, je pense qu'il a pas été apprécié à sa juste valeur. Ça veut pas dire que c'est un grand joueur, mais ça veut dire que c'est un travailleur, que c'est un joueur avec l'esprit irréprochable, et puis qu'il a des qualités quand même. C'est un buteur, il est capable de travailler aussi pour l'équipe. Il a beaucoup de qualités. Choupo-Moting.
Patrick, est-ce que ces équipes, donc ces deux équipes amputées finalement de deux joueurs pour X raisons, est-ce qu'elles sont plus faibles ou qu'en août dernier?
Faut voir lesquels joueurs sont concernés. C'est-à-dire que les deux équipes sont amputées de joueurs clés. Le Bayern, sans Lewandowski et Gnabry, mais surtout sans Lewandowski, c'est pas exactement le même Bayern qu'avec. Ça, on peut pas le nier. Il suffit de prendre les stats et il suffit aussi de voir l'influence de Lewandowski dans le jeu. C'est pas juste des stats et des buts marqués. C'est aussi un joueur qui pèse sur une défense, qui donne du boulot aux défenseurs, qui dégage des brèches pour ses coéquipiers. Donc, c'est très important. Et le PSG, sans Florenzi, alors ça va forcer à sans doute faire jouer Kehrer titulaire, ce qui n'est pas une super nouvelle pour le PSG, vu le niveau de forme actuel de Kehrer. Bon. Et ensuite, sans Verratti, ça prive le PSG du seul milieu.
Et ça arrive si souvent.
Et c'est triste, mais là, pour le coup, on peut pas dire que ce soit de sa faute, malheureusement. Il a été à nouveau positif.
Quand il se blesse, c'est pas non plus de sa faute.
Ouais, mais là, on peut pas dire que c'est de la faute de l'hygiène de vie ou tout ça. Et si vous voulez, je pense malgré tout que c'est le PSG qui est le plus diminué, parce que le Bayern de Munich, c'est Lewandowski, c'est le dernier étage d'une magnifique fusée, mais il y a des solutions pour le remplacer. Et le jeu collectif du Bayern, il est tellement bien huilé et tellement de qualité supérieure qu'on peut enlever une pièce, ça reste hyper solide. Et Kimmich, Goretzka, c'est peut-être le meilleur milieu, le meilleur double pivot du monde.
Nos deux camarades.
Le PSG, si vous enlevez Verratti, je suis désolé, on n'a pas un équivalent au milieu. On n'a pas un joueur aussi à la fois inspiré et travailleur que Verratti dans l'entrejeu du PSG. Donc, ça va être très compliqué. Il va falloir que tous les autres joueurs redoublent d'efforts défensifs pour compenser ça et redoublent d'engagement collectif, de solidarité. Et sur ce qu'on a vu ces derniers matchs, c'est pas gagné.
J'ai l'impression que vous êtes d'accord, David Lortolari.
Annie, il y a un élément. Patrick fait bien de parler de l'influence dans le jeu parce que statistiquement, alors j'ai pas tout épluché avant l'émission, mais Robert Lewandowski à partir des quarts de finale de Ligue des Champions, c'est pas un buteur fou. Hein.
Bah d'ailleurs, il marque pas en finale.
Voilà, exactement. Et il y a un deuxième problème quand même pour Hansi Flick, c'est que il n'a pas de solution réelle alternative sur le banc. Alors il y en aurait une. Et il est capable de nous faire une surprise ce soir. Il pourrait mettre Müller devant et laisser Choupo-Moting sur le banc pour se garder une option. Sinon, si on met pas Choupo-Moting sur le terrain, au Bayern, c'est le jeune Moussiala, 18 ans, qui est brillant. Mais dans un match comme ça, il y a plein d'enjeux, il y a plein de pression, il y a plein d'adversaires quand même de gros calibre. Pas sûr qu'ils prennent ce risque-là. Donc ça fait quand même deux difficultés pour Hansi Flick. Mm-hmm. Devoir se passer d'un homme qui a marqué 35 buts en 25 matchs de championnat, d'une part, et d'autre part, ne pas avoir de l'alternative offensive sur le banc. C'est un handicap pour le Bayern. Cependant, Flick fait peu de changements en moyenne dans les matchs. Il n'utilise jamais les 5 possibilités. Des fois une, des fois deux, des fois trois. Donc il est habitué aussi à partir avec un 11 et aller avec ce 11 jusqu'au bout du match.
Eric Rabessandratana, deux équipes donc qui se retrouvent face à face. Le PSG avait perdu sur un match unique en 90 minutes. Doit-il penser finalement et aborder cette rencontre en pensant à 180 minutes?
Oui, évidemment. Alors après, pour revenir sur ce que disait Patrick par rapport à la différence. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire limiter la casse au match aller, tout miser sur le match retour? Ça veut dire au contraire marquer à l'extérieur pour que ce soit mieux au match retour? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, réfléchir comme ça au-delà du match unique?
Connaissant mon PSG, je vais vous dire quelque chose. J'ai presque envie que la décision ne soit pas faite au match aller parce que ils sont incapables de gérer la pression. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez gagner 2-0 au Bayern, c'est pas le meilleur scénario pour moi, pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que je préférerais qu'il fasse un match nul ou éventuellement, dans le pire des cas, qu'il perde 1-0, mais que ce soit qu'il reste tout à faire au match retour pour qu'il puisse être à 200%. Alors, je dis pas qu'ils soient capables. Ils sont capables de faire n'importe quoi sur un match. Là, pour moi,
dans les deux sens.
Exactement, n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc, l'important pour moi, c'est de limiter les choses, c'est-à-dire d'aller faire un exploit éventuellement là-bas, mais que ce soit de 1-0, que ce soit de 1-1, ou au pire, vous perdez 1-0, rien n'est perdu, mais voilà, et vous savez que vous allez récupérer, j'espère, Verratti au match retour, qui
et
pourra changer
Neymar
beaucoup
sera
de choses.
Suspendu,
et que Neymar. Ouais, mais après, franchement, si Verratti est là, c'est une grosse différence.
Bien sûr.
Je vais pas dire que le Neymar qu'on a vu contre Lille, je préfère 100 fois Verratti à ce Neymar là. Donc
ça vous a inquiété ce match contre Lille?
Ouais, ça m'a vraiment inquiété. Bah, ce qui m'a inquiété, c'est
l'état d'esprit.
Le niveau de forme de Neymar. Alors l'état d'esprit aussi parce
mais
que.
Mais on disait qu'il s'était reposé là pendant 3 semaines, c'était super.
Oui,
on l'avait bien remis en forme.
On ne remplacera jamais la compétition par les entraînements. Il peut faire toutes les accélérations qu'il veut à l'entraînement, ça ne reflétera jamais la compétition. Donc ce joueur là est en manque de compétition et il le sera toujours ce soir. Parce que on a très peu de temps, mais surtout, ce qui m'a inquiété, c'est le fait de voir que dès que Neymar est là, tout le monde rechange sa façon de penser et on donne les ballons à Neymar et c'est une catastrophe en fait.
C'est une catastrophe quand il est dans cet état de
forme
là. Si
bien
Neymar
sûr.
Est resplendissant
Exactement.
À 100%, pourquoi ne pas lui donner toutes les clés et effectivement, il peut gagner un match à lui tout seul. Mais au moins
à l'heure actuelle, c'est pas
à l'heure
c'est
actuelle,
pas
au contraire,
faire.
C'est négatif voilà. pour l'équipe parce que je suis d'accord contre Lille, il était allé à 60% de ses capacités, vraiment.
Non, et puis on a vu par exemple Mbappé là être cadenassé par les Lillois, on l'avait vu être cadenassé au match retour par les Barcelonais, donc
ouais,
c'est compliqué.
Mbappé a eu un bon passage sur janvier jusqu'au match à Barcelone. Sur ces 5 semaines-là, il était vraiment bien. Il avait retrouvé des jambes. Il rejouait à nouveau sur ses forces.
L'allégresse aussi, hein.
Ouais, il rejouait sur ses forces, sur sa vitesse, sur son démarrage. Et ensuite, il s'est un petit peu, peut-être grisé après le match à Barcelone. Et il s'est mis à être énervé, à sortir du match dès qu'il ratait un geste, à être plus négatif dans ce qu'il proposait. Et peut-être qu'il lui faut un grand match pour inverser la tendance et peut-être que c'est ce soir, mais je n'ai que des points d'interrogation.
Bien sûr, mais ça peut être ce soir. En août dernier, c'était Thomas Tuchel qui était sur le banc. Aujourd'hui, c'est Pochettino. Et on se dit que Pochettino, quand il pense Bayern Munich, il doit avoir un peu mal à la tête.
Allez, attention, parce que là, c'est même plus une noyade, là. Attention, avec Gnabry. Oh, Gnabry ! Mais c'est pas possible !
It's going from the sublime to the ridiculous for Tottenham Hotspur in the Champions League.
On savait que c'était la crise à Tottenham, mais on s'attendait absolument pas à ça.
Alors à l'époque, Mauricio Pochettino dirigeait Tottenham 7-2 pris à Londres en match aller, puis 3-1. Ça fait 10 buts quand même encaissés de la part de Munich. C'était alors qu'en août dernier, il n'était pas sur le banc et d'ailleurs. Quand on lui pose la question, évidemment, autour de cette finale et tout, voilà ce que répond l'entraîneur des Parisiens.
Sincèrement, la finale de l'an passé n'est pas un match référence pour nous. Nous avions d'ailleurs été simples spectateurs. Et je ne crois pas que l'on puisse comparer un match aller-retour en quart de finale et la rencontre de Lisbonne. Alors une revanche sportive peut-être, mais je crois que c'est surtout l'occasion de se convaincre que l'on veut battre un rival comme le Bayern Munich, qui est champion d'Europe et champion du monde. Et c'est ce défi qui doit nous mobiliser et nous motiver.
Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux de cet entraîneur argentin? Est-ce que le 7-2, il doit l'avoir bien inscrit dans la tête? Est-ce que par rapport à son effectif, il se dit « je peux faire mieux »
J'espère quand même. Non, après bien sûr, évidemment, je pense qu'il a de bonnes armes pour faire des choses ce soir. Maintenant, je pense quand même qu'il l'a dans un coin de sa tête, forcément. Même s'il a changé de club, même si les dispositions sont pas les mêmes. Quand un club vous a marqué comme ça et en plus chez vous, quand vous perdez 7-2 chez vous contre le Bayern, ça doit être assez traumatisant. Donc non, je pense qu'il l'a dans la tête maintenant. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il est dans un challenge
La disposition de Pochettino.
On a un Navas extraordinaire. On en parlait juste avant avec un Lloris, mais un Navas dans la forme qu'il est actuellement, c'est un vrai plus. On a aussi un Navas qui n'a jamais perdu en match aller-retour en Ligue des Champions. Donc c'est quand même assez, c'est quand même assez une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que ça va changer les choses, mais quand même, peut-être qu'il sera aussi plus fort dans sa tête. Et puis après, bah voilà, vous avez des Mbappé, vous avez des joueurs qui sont capables de faire la différence. Vous avez pas un vrai collectif, c'est-à-dire que forcément vous avez des individualités, mais que le collectif est pas encore mis en place et il le sera pas avant qu'il ait fait une vraie préparation,
avant qu'il
ait mis les joueurs qu'il veut réellement mettre en place au club. Donc voilà, lui il bricole pour l'instant, c'est normal. Il bricole avec cette équipe, alors cette équipe qui est quand même très intéressante, mais pour l'instant il a pas encore mis sa patte au Paris Saint-Germain.
Et nous parler de Navas qui perd pas, les statistiques en faveur du Bayern avec Hansi Flick en Ligue des Champions. 16 matchs, 15 victoires, 1 nul, 0 défaite, 54 buts marqués. Alors certes, il n'y a plus Lewandowski, 11 buts encaissés.
Oui, et quand on interroge un peu les techniciens en Allemagne, alors ils sont polis, donc ils vont pas vous dire qu'Hansi Flick est un mauvais technicien, certainement pas, c'est un bon, mais... sa potion magique, si je puis dire, à Hansi Flick, c'est sans doute la communication, le management de toutes ces stars. C'est là qu'il est très fort, et donc il arrive à transmettre une confiance qui est déjà à l'intérieur du club à tous les étages.
Oui, on va y venir.
Et lui arrive à apporter ça en plus. Voilà, il est dans la continuité, ça passe très très bien avec les égos qui sont parfois boursouflés.
Patrick Juillard, hein. entre un Pochettino qui est un homme averti, entre Hansi Flick qui a bien cette constance pour ce qui est de la compétition européenne, que dire de plus par rapport à ce Paris Saint-Germain? Où est la clé? Où est la clé pour limiter les dégâts? Où est la clé pour aller gagner à Munich?
Bah, la clé, c'est de pas se désunir, déjà. On sait que le pressing du Bayern est un des plus intenses et des plus puissants du monde, surtout depuis que Liverpool est un peu, on en parlera plus tard, un peu en difficulté. C'est l'équipe qui est la plus, qui soumet l'adversaire à la plus forte pression, qui a les récupérations les plus rapides à la perte de balles, en général, les joueurs font des efforts incommensurables. Enfin, on se rappelle de Alaba, notamment, lors du Final Eight, qui était impressionnant.
Et il est toujours là.
Il est toujours là, malgré bien qu'il soit en fin de contrat prochainement, mais il reste toujours un soldat du Bayern. Donc déjà, il faudra se mettre tout de suite dans le rythme, parce que si on se laisse submerger, on voit plus un ballon et ça peut aller vite.
Il va falloir être efficace, parce qu'on se souvient que Mbappé et Neymar avaient eu des occasions à la finale, mais malheureusement pas concrétisées.
Le Bayern peut avoir une certaine qualité pour l'adversaire, c'est de laisser des espaces. C'est pas une équipe qui est obsédée par la prudence et par le quadrillage du terrain. Ils font beaucoup de courses, donc ils peuvent laisser des espaces dans leur dos. Il faut savoir les exploiter. Donc il faudra avoir un Mbappé dans son meilleur registre, c'est-à-dire capable d'aller décrocher, demander le ballon et le redemander dans la profondeur ensuite. S'il fait du petit jeu et du sous-Neymar, comme il l'a parfois fait ces derniers temps, ça ne servira à rien contre le Bayern.
Faut-il craindre les anciens du Paris Saint-Germain, ceux qui ont un jour été du Paris Saint-Germain ou qui ont eu un lien, Eric me regarde.
Oui, j'attendais la fin de la question, je dis pas ça, qu'est-ce que ça veut dire?
Quelqu'un comme Choupo-Moting, quelqu'un comme Coman, qui est le buteur de la finale.
C'est dans l'ADN du PSG, hein. On l'a vu. Hein. De toute façon, quand tu prends un but en finale de Ligue des Champions par Coman, qui marque un but de la tête tous les 50 ans, et tu perds la finale, c'est dans l'ADN du club. Donc, tu dois craindre, pas forcément. Moi, je pense qu'il faut faire abstraction et jouer ton match. Tu joues ton match, voilà. Tu t'es concentré sur ce que t'as à faire. Déjà, tu vas faire une grosse abstraction de la pression, parce que même si finalement, bah, tu perds là-bas et tu te fais éliminer par le Bayern, c'est dans les choses logiques
Ça peut l'être.
Bah oui, bien sûr, parce que c'est la meilleure équipe en Europe à l'heure actuelle.
Comme rappelait Pochettino, c'est sûr. Champion d'Europe.
Voilà.
Champion
donc
du
c'est
monde
la meilleure équipe en Europe. On peut dire ce qu'on veut. C'est la meilleure équipe en Europe à l'heure actuelle. Donc, tu te fais éliminer par le Bayern. Il y a pas de souci. Maintenant, on sait que quand tu as joué la finale de Ligue des Champions, c'était pas un Bayern transcendant et que tu avais largement la possibilité. Donc, ça veut dire qu'ils te craignent quelque part. Donc, maintenant, il faut être capable de répondre à cette crainte et d'être performant. C'est ça qui va être difficile pour le Paris Saint-Germain.
Face à ce Paris Saint-Germain, on a quelque chose. Vous l'avez donc écrit sur le site Eurosport. Mia sans Mia, on dit?
Oui, nous, wir sind wir, c'est dans la version bavaroise, nous sommes ce que nous sommes. Ça veut rien dire, mais ça veut quand même dire quelque chose.
En tout cas, ça symbolise la confiance du collectif face à peut-être l'inconstance des individualités en face. Est-ce que c'est un peu le résumé de cette adversité ce soir ?
Oui, ça s'assoit sur une région, une ville qui sont puissantes, qui sont assez fières, qui aiment bien montrer leur qualité financière, économique, politique, leur
certitude.
Oui, leur domination
sur prospérité.
Oui, c'est local, c'est régional, et ça dépasse aussi le cadre national puisque les Allemands ont été parfois aussi qualifiés d'arrogants. Il y a quelque chose qui vient peut-être, enfin qui vient, c'est pas originaire de la Bavière, mais la Bavière s'inscrit bien là-dedans et au club, on le voit, on est là-dedans, c'est-à-dire que c'est difficile d'ébranler les acteurs au Bayern. Les journalistes essayent bien en conférence de presse de poser des questions dérangeantes, etc.
Même dans les déclarations des personnes ou des anciens officiels. Joueurs qui sont dans le club, tu le ressens déjà.
C'est un club qui a toujours su, David me contredira peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un club qui a toujours su vivre avec le conflit, avec les divergences, les dissensions en interne, parce que au-dessus de tout ça, au-dessus de ces désaccords et divergences, il y a toujours le club et le sportif.
Et en ce et moment, l'intérêt commun.
En ce moment, oui. On a des divergences entre le Salihamidzic et l'entraîneur, Flick.
Pour la politique des transferts.
Pour les mercato. Ça n'empêche pas que tous les joueurs restent groupés autour de l'idée de projet de jeu et l'idée collective, le Bayern, quoi. Donc, et ça, le PSG peut en prendre de la graine parce que c'est un club qui, au contraire, a tendance à se laisser parasiter par l'extra sportif, les histoires de personnes, les rumeurs de mercato.
Qu'ils créent parfois eux-mêmes,
on a vu,
ces histoires.
L'impact qu'ont eu ces infos de presse là dans la presse catalane, disant que le Barça essayait de refaire un dossier pour reprendre Neymar, ça a mis un peu un rat dans la tête de tout l'entourage du club, quoi.
Parce que ça veut dire que voilà, t'es quand même t'es pas stable.
C'est-à-dire voilà. Si t'es le stable, Bayern aurait été sûr au-dessus de ta
force.
Ça, en
fait. Voilà. C'est-à-dire, si tu es sûr de ta force, tu te
et
dis.
Et puis, bah,
si
on est au Bayern, on n'a pas envie de partir.
Voilà.
Messieurs, pour terminer, un petit pronostic. Je ne vous demande pas forcément le score, mais.
J'ai mis nul. J'ai mis nul 1-1.
1-1, ah oui. David Lortolari.
Moi, je veux rapidement dire un mot sur un joueur qui va être essentiel au Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos. Si Marquinhos fait un super match comme il est capable de faire, il peut tenir l'attaque du Bayern. Ça va être compliqué parce que ça vient un peu de tous les côtés. C'est lui qui va être un pivot, une clé. Pourquoi pas un partout, Annie, parce que le PSG doit se transcender dans des matchs comme ça. C'est le moment ou jamais.
Bon, alors je vais faire le rabat-joie. Je dirais une victoire du Bayern par un but d'écart. Allez, 2-1.
Bon. Ouais. Au moins, ça vous nous promettez voilà. Du spectacle. Et nous vous en parlerons évidemment dans la soirée spéciale sur RFI tout à l'heure. Allez, on continue parce qu'il y a un autre match. Avec des Blues face aux Dragons du Portugal. Et ce sera en terrain neutre pour des raisons sanitaires. Chelsea et Porto joueront leur double confrontation sur une pelouse d'Andalousie à Séville. Le FC Porto est l'invité surprise de ces quarts de finale après avoir accompli l'exploit en huitième de sortir la Juventus de Turin de CR7 et de Pirlo. L'entraîneur des Blues londoniens Thomas Tuchel se montre en tout cas un homme averti.
C'est une équipe très forte en Ligue des Champions. Comment pourrait-on se réjouir de l'affronter ? On a été capable de perdre contre le 19e de Première Ligue 5-2, donc on est bien placé pour savoir qu'on doit être humble et professionnel dans la préparation de nos matchs. J'ai le sentiment que ce sera très difficile parce que je n'attends rien d'autre que le meilleur Porto, une équipe très expérimentée dans cette compétition, championne du Portugal depuis plusieurs années, ce qui façonne une mentalité, mais nous sommes suffisamment confiants et forts pour espérer passer ce tour, car notre objectif est clairement d'aller en demi-finale.
We play clearly to make it to the semifinal.
Clearly, il veut aller en demi-finale, Thomas Tuchel, avec ses Blues. Le FC Porto de Sergio Conceição, hein, qu'on avait vu un temps à Nantes, c'est dommage que Nantes ne l'ait plus. Est-ce la fausse petite équipe, Patrick Juillard ?
Je suis tout à fait d'accord avec cette définition, c'est exactement ça. C'est le FC Porto, c'est toujours... Il est toujours un peu regardé de haut en disant « Ah oui, bon, il y a 7 qualifiés, puis le 8e, le FC Porto, bon, on les clubs espèrent tomber sur lui. » voilà, alors que c'est une équipe, vraiment, déjà, c'est un club qui a une culture européenne énorme, qui est là presque tous les ans, qui a gagné deux fois cette épreuve, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Chelsea, avec Abramovich, ils l'ont gagné qu'une fois. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, mm-hmm. ça resitue un peu les choses. Et puis, c'est une équipe très dure à jouer. C'est-à-dire, il y a du talent sur les côtés, notamment avec Corona, par exemple. Hein. Mais ce n'est pas le seul. Marega en pointe, qui est un joueur qui vous rend pas malade. Ouais, qui est un vrai... non, mais c'est un vrai virus pour les défenseurs adverses.
Ça, c'est sûr.
Il y a Diaz, Luis Diaz aussi, qui est un super petit joueur insinuant, difficile à marquer. Marega qui lessive n'importe quel défenseur, qui a un vrai
bulldozer,
un joueur qui vous lessive vraiment, qui vous met à rude épreuve. Oliveira, c'est un peu le régulateur au milieu qui tire tous les coups de pied arrêtés. C'est un super joueur aussi. Donc et la défense est plutôt solide. Le gardien est bon, Marquezine. Bref, il n'y a pas de faille vraiment. C'est un bon collectif. Il y a un super entraîneur. Donc moi, je pense que c'est pas du tout gagné d'avance pour Chelsea qui est encore largement une équipe en construction, talentueuse, sans doute plus que Porto si on regarde tout l'effectif, mais la carburation n'a pas encore été trouvée, donc attention.
Est-ce un match équilibré selon vous, finalement, quand on écoute Patrick Juvier, on se dit, bon, bah alors c'est équilibré entre ces deux équipes,
bah oui.
Parce que Chelsea est un peu inattendu aussi, eux, avec le changement d'entraîneur, même s'ils étaient sur une bonne série là, de matchs sans défaite, on a l'impression que les deux sont trouvés finalement.
Ouais, non, je pense que c'est plutôt équitable. Il faudra que les deux soient à 100% pour pouvoir faire la différence. Mais Chelsea, à la limite, ils ont eu la bonne surprise de prendre une petite claque juste avant le match de Porto. Et du coup, on va se dire,
ils en parlent, Tourelle,
c'est possible. Bah ouais, bien sûr, parce que
ils
c'est possible.
Ils ont perdu ce week-end en plus face au 19e de première ligue.
Je pense que c'est un petit rappel de dire faut faire attention. On est sur une bonne série. Après, bon, cette série, elle est quand même impressionnante.
Bien sûr.
Donc j'imagine que
14 matchs,
sans perdre. Il y a certaines certitudes, mais
Thiago Silva était sorti sur carton rouge, donc ils étaient qu'à 10.
Ouais, voilà, mais bon, cette équipe de Porto, c'est un vrai collectif en fait. Donc ça va être intéressant de voir contre
collectif.
Chelsea qui a eu un très très bon rendement dernièrement. Donc je pense que c'est plutôt pas mal.
David Lortolari.
Annie, il y a un vrai beau duel d'entraîneurs là pour le coup, ça m'intéresse pour ça aussi ce match-là. Et puis quand même, il y a plus d'arguments peut-être à Chelsea dans la mesure où il y aurait une forme correcte. Évidemment, il faut arriver dans ce match-là. On l'a vu notamment avec Liverpool.
Oui,
on en dira peut-être un mot.
Werner,
voilà,
ne
c'est ce que j'allais dire. Oui, mais il est peut-être alors reconverti. Le mot est un peu fort parce qu'il est encore très jeune, mais l'entraîneur l'utilise différemment il avait pu être utilisé par exemple à Leipzig. Il y a Werner, il y a Havertz, il y a Pulisic. Il y a des gens sur le banc qui peuvent peut-être sur la longueur d'un match aller plus retour,
180
être utile et être des arguments décisifs si ça devait basculer dans le cadre d'un rapport de force équilibré.
Soirée spéciale donc et très attrayante à vous écouter ce soir sur RFI. Alors ça commencera une minute avant le coup d'envoi, 18h59 temps universel. Il y aura Martin Guez qui attend déjà toujours vos messages comme hier soir avec Thomas de Saint-Léger. Il y a aussi Frédéric Suto qui mènera à la baguette. Et puis vous, Patrick Juillard, hein, vous jouez les prolongations. David Lortolari jouera les prolongations pour la deuxième édition de Radio Foot International et ça sera à 21h10 en temps universel.
Il y aura
du foot en
deuxième partie.
Nabil Djelit,
voilà.
Bien sûr, qui viendra.
Quel casting 5 étoiles.
Et Hugo Moissonnier, donc vous voyez.
Casting 5 étoiles.
On a pris les meilleurs pour ce soir, pour cette deuxième soirée de Ligue des Champions, en espérant qu'on aura de belles surprises. Allez, on continue, mais on reste sur la Ligue des Champions avec les matchs d'hier.
La quiere Vinicius a la espalda de Philips. Pelota buena para Vinicius. Y puede ser Vinicius. Gol del Real Madrid. Apareció Vini. Sí, samba para ti. Gol para ti. Gol para el Real Madrid. Música para la Casa Blanca. Música de Vinicius. Música de Champions. Hace el aguante Karim. Se la pasó a Modric. Con la zurda Modric. Sí, pero para Vinicius. Gol. ¡Gol!
Les Merengues, vainqueurs hier soir sur le même score qu'il y a 3 ans d'ailleurs, hein, même si les deux entraîneurs nous avaient assuré avant le match que cette nouvelle confrontation n'avait rien à voir, on avait un score de 3-1. Mais évidemment, il reste un match retour. En tout cas, le leader de cette attaque hier, c'était le Brésilien Vinicius. Vinicius Junior ou encore Vini, comme on peut le lire sur son maillot désormais. Et Zidane était très élogieux.
Je suis content pour lui en tous les cas, et c'est ce qu'il avait besoin, je pense qu'il avait besoin de marquer. Il a toujours fait tout bien, enfin, je pense que défensivement il fait des efforts incroyables, offensivement c'est quelqu'un qui prend les espaces et qui fait des différences, et c'est vrai qu'il lui a manqué, il a manqué peut-être dernièrement le but, donc ce soir il a marqué 2, c'est un match important, ça va lui faire du bien, je pense que ça va lui donner une énergie incroyable d'avoir marqué, c'est très positif pour lui et pour nous.
Vinicius encensé ce matin alors par la presse espagnole, hein, pour Marca c'est Vinicius couronné, pour AS c'est Vini, Vidi, Vici, bon alors c'est pas Jules César, oh, ouais, mais c'était facile. La presse espagnole dit aussi, bah, il a été notre Cristiano, hein, évidemment cette équipe orpheline depuis si longtemps de Cristiano Ronaldo. Il y a aussi la presse du Brésil qui ne le perd pas de l'œil, ce joueur qui est parti à 16 ans de Flamengo et qui parle d'un craqué. Alors quand on parle d'un craqué là-bas, c'est vraiment le best du moment, le meilleur. Ce Vinicius, déjà en sélection, hein, convoqué il y a quelques mois par Tite. Bref, est-ce que vous avez vu finalement hier Vinicius, Patrick Juillard, passer un cap?
Ah oui, oui, pour moi c'est son meilleur match depuis qu'il est au Real Madrid.
C'est la première fois depuis qu'il avait quitté Flamengo qu'il marquait 2 buts dans un match important.
Voilà, parce qu'il a déjà fait des bons matchs contre des équipes de Liga lambda, disons, mais là, sur un match important, quand même, contre un ancien vainqueur récent de la Ligue des Champions, contre une équipe championne d'Angleterre.
Méconnaissable, bon, mais bon.
Oui, mais malgré tout, qui a une expérience de la Ligue des Champions exceptionnelle, qui est au rendez-vous tous les ans depuis presque 5 ans, 6 ans, c'est fort de faire ça. Et surtout, ce que j'ai apprécié, alors les buts, il joue sur sa vitesse et sa fougue, son finish, mais surtout ce qui est bien dans le match, c'est qu'en début de match, il a vraiment joué comme un ailier, il a étiré la défense en faisant des appels le long de la ligne, en travaillant un peu les défenseurs sur la largeur comme ça, et petit à petit, il s'est un peu mué en avant-centre bis, en repiquant vraiment, en se servant aussi du travail que faisaient Benzema et Asensio.
La preuve sur son deuxième but.
Et il a montré aussi qu'il pouvait avoir un registre beaucoup plus vaste que celui d'un joueur qui fait des allers-retours le long de la ligne. Et ça, c'est bien parce que c'était un joueur hyper doué, Vinicius, mais il avait montré des limites tactiques. Il était un peu limité parfois dans la manière
dans la
de se situer
aussi
dans l'espace, tout ça. Et là, hier, il a fait preuve d'une science du jeu et du but remarquable. Donc, bravo à lui.
David Ortolari, on sait que Zidane le couvait. On sait qu'à l'entraînement, notamment, il lui donnait des conseils pour justement être plus efficace. Est-ce que c'est l'aboutissement, finalement, de ce travail? Il est arrivé il y a 3 saisons maintenant. Et on se demandait s'il trouverait sa place dans cet effectif. Peut-être l'a-t-il trouvé.
C'est un palier essentiel, Annie, parce que dans des clubs de ce standing, je pense à des exemples aussi vus au Bayern ou peut-être dans des clubs, les rares clubs qui sont à ce niveau-là, il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui butent sur la dernière marche, c'est-à-dire avoir de la confiance, réussir une série de matchs, s'imposer, et il y a des joueurs qui étaient brillantissimes, qui sont brillantissimes intrinsèquement et qui sont obligés de repartir au bout d'une saison, une demi-saison, une saison ou deux parce que ils n'ont pas réussi à s'installer. Ça peut être un élément utile pour son installation parce que c'est quand même encore un très jeune joueur.
Mais c'est ça.
20 ans.
Il a 20 ans.
Et donc Annie, par rapport à ce que vous disiez sur l'attitude de son entraîneur Zidane, un bon point pour Zinedine Zidane, pour le coup.
D'autant qu'on sait qu'il y avait eu quelques bisbilles, des critiques en interne. Benzema, alors ça avait été pris par capté par des caméras et du coup ça avait semé un peu la zizanie, avait dit à Ferland Mendy, il fait ce qu'il veut, ce joueur, en tout cas, c'est clairement, il joue contre nous.
Non, mais après,
ça marque les esprits dans un vestiaire où ça fait partie de,
c'est ça, je pense que ça
de
fait,
la vie commune. Exactement. C'était le moment de l'instant.
Je pense que ouais, c'était.
Parce que là, la belle.
C'est des faits qui existent depuis toujours dans les vestiaires. C'est des énervements qui peuvent être
passagers.
Être vrais aussi par rapport à un comportement unique ou voilà du moment.
Sur qui vous avez déjà dit
sur,
ça
non, je sais pas. Moi, j'ai dû dire. Ah ben non, mais bien sûr, j'ai dû dire des choses, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Ah, je sais.
Ça arrive.
Il y avait donc, pas des micro caméras.
Donc non, mais même, je veux dire, ça fait partie d'une vie de vestiaire. Donc forcément, ça, pour moi, ça c'est pas très grave. Vinicius, ouais, il a 20 ans. Donc 20 ans, c'est quand même. Il a déjà glané cette expérience avant. Maintenant, il arrive à 20 ans.
Puis on l'a lancé
attend beaucoup
tôt,
de choses de lui.
Oui, voilà.
C'est peut-être, comme tu disais, son match beaucoup. Le plus abouti, mais pas que sur la performance offensive, sur la performance défensive aussi.
C'est-à-dire sur la globalité.
Où il a travaillé énormément pour l'équipe. Il doit se servir de ce match-là comme référence, forcément. Est-ce qu'il est capable de renouveler la performance, mais avec la globalité, c'est-à-dire ce travail défensif plus cette performance de finition et d'efficacité, la simplicité de son deuxième but où il surprend tout le monde en fait, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il va contrôler, qu'il va faire, et puis d'un seul coup, puis il déclenche et il surprend tout le monde. Et ben voilà, il doit réussir à garder cet état d'esprit et d'être
en fait,
disponible comme ça.
En fait, il faut qu'il mette sa fougue au service de l'équipe.
Exactement.
Mais sans la canaliser trop, parce que sinon il va perdre ce qui fait sa qualité. Quoi.
Parce que ses qualités n'ont jamais été le problème. C'est juste que voilà, sa régularité, son le fait de s'installer dans un poste de vrai titulaire.
En tout cas, il lui faudra peut-être confirmer dès le Classico au cours du week-end. Et puis évidemment, il y aura le match retour. Je voulais qu'on s'arrête quelques instants aussi, c'est sur Zinedine Zidane. Est-ce que pour vous, en gagnant cette bataille finalement contre Jürgen Klopp, alors certains, on le sait, Liverpool va moins bien, la défense est décimée depuis des mois et finalement il n'y a pas d'amélioration. Mais est-ce que c'est un entraîneur à part? Je sais que vous aimez bien la tactique, David Lortolari. Ces histoires de 4-3-3, de 3-5-2 et tout, on a l'impression que c'est pas ce qu'il guide. Ce qui le guide, c'est le ressenti, c'est la science du foot et finalement du haut niveau qu'il a vécu. Et qu'il a eu la chance de pratiquer si longtemps.
Ah mais c'est sûr que vous pourrez chercher.
Parce qu'on entend beaucoup de critiques. Oui, c'est pas vraiment. Il a de la chance. Il sait naviguer avec les égos. Enfin, on entend ça plus que c'est un bon tacticien. Hier soir, Rémi Nguono était assis à votre place. Patrick Juha, il nous disait, mais il nous a expliqué comment il avait piégé Klopp tactiquement.
Oui, alors vous avez répondu en partie à la question, Annie, parce que ça fait quand même deux fois que vous insistez à juste titre sur le fait que Liverpool était pas dans le coup pour ce match-là, donc ça quand même. Mais Zidane, oui, c'est-à-dire que si vous prenez des psychopathes de la tactique, des Tuchel, des Nagelsmann, des gens qui vont être uniquement sur ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a un moment où il y a plus de la communication, la compréhension se fait pas avec le groupe. Klopp, peut-être est-il en train de, je veux surtout pas lui souhaiter ça, mais par le passé ça a été le cas. Il y a eu un moment où au bout de deux ou trois saisons, on arrivait au bout, il y avait plus d'essence, il y avait plus de communication possible parce qu'il avait tout tiré de son effectif. Zinedine Zidane, à mon sens, se tire de ces deux écueils-là. Le premier, parce qu'il est un excellent manager, sans doute, pour les égos, parce que, évidemment, on respecte Zidane pour tout ce qu'il a fait comme joueur.
Ça joue aussi.
Et à côté de ça, il semble aussi, peut-être en bonne entente aussi avec l'entraîneur, avec le président Pérez, mais il semble aussi être capable de longévité. Donc, ça veut dire qu'il a les deux qualités, à la fois gérer avec les qualités tactiques nécessaires sur le long terme, et aussi ménager suffisamment les uns les autres pour pouvoir durer lui à son poste. Parce qu'en plus au Real, on peut dégager au bout de trois matchs.
Mais oui, mais
Eric Rabé.
Bien sûr. Sauf que il a la confiance de son président, il a la confiance de ses joueurs, ce qui est quand même extraordinaire.
Bah oui,
ce qui est
pour
difficile.
Moi, c'est essentiel.
Bien sûr.
Et il garde des résultats.
Oui, parce que la saison n'était pas simple.
Pour revenir sur ce que tu disais par rapport au 3-5-2 ou 4-4-2 ou en fait, c'est pas important ça. L'important, c'est l'animation que tu as dans cette tactique-là. Et en fait, c'est là où il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. C'est-à-dire que même si cette relation privilégiée qu'il a avec les joueurs, elle peut être ressentie par rapport à l'animation qu'il va y avoir par rapport à cette tactique. Mais sinon, il n'a pas réellement de tactique. C'est juste l'animation et ce qu'il tire de ses joueurs aussi.
Il fait quelque chose de classique. Oui. Globalement, c'est du 4-3-3 classique. C'est pas révolutionnaire, c'est bien, hein, classique.
Mais c'est toujours
c'est pas
adapté
une insulte,
à ses joueurs aussi.
Hein. C'est quelque chose qui marche, qui est
au moment,
qui est éprouvé. Mais alors, ce qui me frappe, c'est combien. Alors, je sais pas quelle est sa part à lui.
Parce qu'on dit qu'il n'y a pas un style, Zidane, Patrick.
Il y a quand même un style avec un jeu assez rapide vers l'avant. C'est pas un fanat de la possession. Parfois, oui, les séquences de handball de Guardiola, il n'y en a pas chez Zidane. Mais par contre, non.
Il y en a eu hier soir, mais dans l'autre match.
Oui, voilà. Mais si vous voulez, ce qui m'a frappé, moi, c'est combien il a remis en route ce milieu de terrain qui était à bout de souffle, Casemiro, Modric, Kroos. Là, ils pétaient le feu hier. Donc, quelle est la part de Zidane là-dedans? Est-ce que c'est lui qui les motive sur les gros matchs, ou est-ce qu'il a
son staff,
un
aussi,
bon préparateur physique? Est-ce qu'il sait leur parler pour savoir exactement à quel moment de la saison, sur quel match,
c'est
il peut
le chef, en tout cas,
se mettre au diapason de ce qu'il veut? En tout cas, c'est tombé parfaitement hier. Ils étaient dans leur pic, visiblement, dans un pic de forme au bon moment.
Un petit mot sur les Citizens, c'était l'autre match d'hier soir, sauvé par le gong et peut-être aussi par l'arbitre. Un seul but d'avance, le match aurait pu peut-être être 2-2, donc il n'était que de 2-1. Retour chez les jaunes et noirs, hier l'un des meilleurs Citizens, c'était sans doute lui.
KDB.
Il a tout fait, Kevin De Bruyne.
C'est De Bruyne,
hein. Qui a tout fait sur cette action. Il a décalé Phil Foden sur la gauche, qui a centré pour Riyad Mahrez, qui a pu contrôler le ballon dans la surface, se retourner, la passer du gauche à 5 mètres, à 6 mètres des buts à Kevin De Bruyne, qui n'a plus qu'à fusiller Hitz, le gardien de Dortmund. Et il a pas raté, son plat du pied, c'est facile aussi.
Alors évidemment, il y en a d'autres, on peut parler de Riyad Mahrez, on peut aussi parler de Phil Foden, mais parlons de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, David Lortolari, il a exprimé des regrets en fin de match. Alors, est-ce qu'ils ont peur comme chaque année? Est-ce qu'il a, il a un peu peur déjà de ce match retour?
En tout cas, des regrets, ça me paraît un peu excessif, dans la mesure où il y a eu quelques faits de jeu qui auraient pu ne pas être autant à l'avantage de Manchester City, notamment un but refusé à Dortmund qui semblait valable. Kevin De Bruyne, je pense que c'est le moment pour lui de réellement, et il s'y prépare, assumer un costume énorme, parce qu'il n'y aura ni Eden Hazard, ni Axel Witsel pour l'Euro, pour la Belgique. Donc aujourd'hui, il est obligé de prendre des responsabilités importantes. Et là, sur un match comme ça, il est décisif et il a pris des responsabilités importantes. C'est bon, c'est un bon signe, sans doute, pour son avenir proche.
Eric?
Bah, moi, j'aime beaucoup le joueur. Moi, là, tu dis, c'est vrai qu'il faut qu'il prenne plus de j'allais dire d'importance. Mais il le fait par le jeu quand même souvent, souvent. Mais dans la personnalité, en fait, c'est là où je pense que tu veux dire qu'il faut qu'il extériorise un petit peu plus que. Mais il a un talent incroyable. Franchement, c'est. Je crois qu'il est en train de prolonger.
On parle peut-être pas assez de lui d'ailleurs.
Il est en train de prolonger, je crois même d'ailleurs. Mais c'est vrai. On parle pas assez de lui, je trouve, par rapport au talent qu'il a et par rapport à la performance qu'il fait et qu'il répète tous les ans. Alors, il a été blessé longtemps avant un moment, mais je veux dire, ce mec-là, il est incroyable. Il est incroyable. C'est un buteur, c'est un passeur, c'est un mec qui sent le football. Et là, bah oui, il a fait une grosse performance, mais t'as raison sur le but de pour moi il y a but
en Allemagne, je crois qu'on disait qu'on avait été floué, quoi. Ouais. Patrick Juillard
sur Kevin De Bruyne.
Oui.
Oh, bah, c'est le joueur un petit peu la courroie de transmission, le meneur de cette équipe, mais c'est un joueur de collectif, c'est pas un meneur qui prend
totalement
le ballon et qui s'occupe de tout et
pas
voilà.
Individualiste, ouais.
C'est un joueur aussi qui fait jouer les autres.
Vous
qui
pensez
les fait briller, donc
la qualification de Manchester City?
Bah, la qualification, ils sont évidemment capables d'aller gagner ou de faire un résultat à Dortmund, ça y a aucun doute possible, mais ce qui est compliqué pour cette équipe, c'est que elle lamine tous ses adversaires en première ligue, mais quand elle tombe contre des collectifs davantage habitués à la haute intensité de la Ligue des Champions, elle a un peu plus de mal.
Et tous les ans.
Un peu plus de mal. Alors là, pour l'instant, bon, l'an dernier, quand même, Guardiola s'est planté contre Lyon, il faut le dire, tactiquement. Là, pour l'instant, il n'a pas fait d'erreur comme ça. S'il continue, il a une meilleure défense, quand même, que les saisons précédentes. Donc l'espoir reste permis.
L'espoir reste permis, bah pour tout le monde, notamment ce soir, n'est-ce pas? Allez, Eric, qu'est-ce qu'on vous dit?
J'espère qu'on verra un bon match et puis qu'il n'y aura pas trop de neige et qu'il n'y aura pas trop de buts contre Paris.
Rendez-vous ce soir donc sur RFI à 18h59 et à 21h10 pour la deuxième édition de Radio Foot.
Demain sur RFI.